Je me réjouis d'être avec vous, ça doit faire au moins un mois et demi que vous ne m'avez plus vu, hein, entre les vacances, les interventions et le travail. En tout cas, je me réjouis de pouvoir revenir à Bouxwiller, prêcher, et puis rester au moins, enfin, même pas prêcher, être avec vous, et c'est cool. Bon, cette tablette, elle tient ou elle ne tient pas? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Walter Alexandre, marié à Laetitia que vous avez vue, et je suis à mi-temps en tant qu'évangéliste avec France Évangélisation. Et l'idée c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on transmet l'évangile, la bonne nouvelle à une société qui finalement n'a plus du tout envie hein, d'entendre l'évangile, qui est en perte de repères, perte de sens, et comment donner Jésus et son amour? C'est tout un programme. Alors aujourd'hui, je vais prendre avec vous un passage qui se situe dans Luc. Luc, c'est un évangile, un livre qu'on retrouve dans la Bible. Luc, c'est un médecin, c'est un ami de Paul et c'est un missionnaire. Alors, il est parti avec Paul à un moment donné et nous ne savons pas grand-chose de Luc. Il est vraisemblable qu'il fait partie de cette deuxième génération après Jésus. Mais ce qui est sûr, c'est que Luc est minutieux. Il détaille les choses, il analyse, il récolte les témoignages de ceux qui ont vécu avec Jésus et il les met par écrit dans son évangile. Alors on pense aussi fortement que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, donc ça c'est un livre qui se situe un tout petit peu après, aussi dans la Bible, et qui nous montre la naissance de la première Église. Et nous, ici à Bouxwiller, finalement, nous nous inscrivons également dans cette longue lignée, dans cette histoire de cette Église naissante 2000 ans après. Et moi, je trouve ça cool de se dire, ouais, c'est la suite. Alors, voici ce que Luc nous dit au chapitre 10, 1 à 20. Après cela, le Seigneur désigna encore 70, suivant les manuscrits, 72 autres disciples. Et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrez, dites d'abord, « Que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. » Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant, que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr ou dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Alors là, il faut voir dans le texte une petite pause. Et quelque temps après, les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. 70 disciples, 35 missions, et un seul nom à donner, Jésus. Jésus, dans notre texte, envoie 70, voire 72, hein, suivant les manuscrits, en mission. La mission d'annoncer « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et pour comprendre ceci, on va revenir un peu en arrière, car malheureusement, depuis le commencement, les gens ne veulent pas s'approcher du royaume de Dieu. Depuis le commencement, nous faisons qu'à notre tête. Et ça, c'est dès le début de la Bible, dès les premiers chapitres. Nous voyons Adam et Ève qui marchent avec Dieu dans ce jardin d'Éden. Ils avaient ce royaume, ils étaient dans ce royaume. Et ils marchaient avec Dieu, mais ils en ont décidé autrement. Ils ont décidé de vivre par leurs propres moyens, décidé de ne plus mettre Dieu au centre, mais de se mettre eux-mêmes au centre. Vous aussi, ça vous arrive ? Moi, ça m'arrive des fois de dire « Non, Seigneur, non, là, j'ai envie de contrôler la situation. » Et combien de fois je me plante dans ces situations-là ? Nous avons depuis longtemps voulu mettre Dieu de côté, loin de nous, et vivre par nos propres lois, par nos propres valeurs. Et maintenant, notre société même nous donne nos propres vérités. Et malheureusement, le péché qui est entré dans ce monde au moment où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, eh ben, ils ont provoqué une catastrophe. C'est une réaction nucléaire, c'est-à-dire que c'est une réaction qu'on ne peut plus arrêter. C'est fichu, on est dedans maintenant. Mais le plus grand encore problème que le mal qui nous envahit, qui a envahi la terre, plus grand encore que le mal, c'est notre relation brisée avec Dieu. Nous ne vivons plus dans ce royaume. Ce royaume a disparu. Comment on fait pour y retourner ? Et Dieu déteste le mal. Il a en horreur ton mensonge. Il a en horreur ta convoitise. Il a en horreur ma jalousie, mon regard de haine sur l'autre. Il a en horreur nos petites magouilles, nos demi-vérités. Il a en horreur nos péchés. Mais c'est trop tard, hein, nous baignons dedans et nous avons été exclus de ce royaume. Et vous savez ce que la Bible nous montre du début de Genèse jusqu'à Apocalypse, du début à la fin, la Bible nous montre qu'on n'y arrivera pas. On est fichu. Je peux tout mettre en œuvre, je peux essayer de m'en sortir par moi-même, ça ne marchera jamais. Ça ne sera jamais assez suffisant pour effacer toute la crasse que j'ai dans mon cœur. Et la conséquence de tout ça, elle est terrible. Dieu a horreur du péché. Et du coup, par conséquent, il a aussi nous-mêmes, il a horreur de nous qui sommes remplis de péché. Parce qu'on a le péché en nous. Et la conséquence, c'est qu'à notre mort, Dieu se détourne de nous. Car il est trop saint. Et il ne peut pas cohabiter avec le péché. Nous en sommes trop remplis. Et que dit la Bible sur un monde sans Dieu ? Elle appelle ça l'enfer. L'enfermement de soi-même, sans possibilité d'avoir une main qui t'est tendue, sans possibilité d'éteindre le feu qui brûle tes entrailles, le feu de ta haine, où tu es livré à toi-même sans bouée de secours. L'enfer, une éternité sans Dieu. Mais Dieu nous aime. Il n'aime pas le péché qui est en nous, mais il nous aime nous. Et il nous aime tellement que chacun d'entre nous, que c'est lui-même qui vient, c'est lui-même qui fait le premier pas. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus, Dieu incarné dans un homme, Jésus sans péché, un cœur pur. Oui, le royaume de Dieu, Jésus. Ce n'est qu'à travers lui que nous pouvons être sauvés de nos manquements, de nos fautes. Alors si ce matin tu en as marre de vivre dans ta haine, dans tes manquements, dans ton péché, allez, je t'en supplie, viens à Christ, viens à Jésus, accepte-le. Lui seul peut effacer, nettoyer toute la crasse de nos cœurs parce qu'il n'a pas de péché. Et ne laisse pas ce royaume d'amour passer à côté de toi. Viens voir les responsables à la fin du culte, qu'on puisse prier aussi pour toi. Et c'est tellement important de ne pas rester enfermé. Alors je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait ce pas d'accepter dans votre vie Jésus. Vous avez répondu à l'appel de ces 70 qui ont annoncé le royaume. En réalité, ils sont maintenant des milliers, voire des millions à parcourir le monde pour annoncer Jésus. Et vous avez répondu à l'appel de ces disciples, de ces évangélistes, de ces pasteurs ou simplement de ces chrétiens qui vous ont annoncé cette bonne nouvelle. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à votre tour. Nous ne pouvons pas recevoir et accepter cette grâce infinie que tous vos prédécesseurs vous ont transmis. Et nous ne pouvons pas recevoir ça et ne pas bouger. Et garder cela égoïstement finalement pour nous. J'ai une personne dans une église avec qui j'ai discuté. Et je lui ai demandé de prendre, ils avaient un groupe de jeunes là, et je leur ai demandé de prendre un jeune de ce groupe de jeunes en main pour faire du discipulat avec lui, pour que ce jeune puisse grandir avec Jésus et tenir sa course. Comment tenir? Comment courir toute sa vie avec Jésus? C'est un apprentissage. Et on a besoin de montrer à nos jeunes comment on fait. Et la personne avec qui je parlais et je lui disais, mais prends ce jeune, fais du discipulat avec lui. Et la personne me répond, non, non, je suis désolé, mais je ne me sens pas prêt à transmettre ça, ce n'est pas pour moi. Waouh! Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'avais envie de prendre ma grosse Bible et lui taper fortement sur la tête? Non, ok, non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Même si j'avais vraiment envie, mais non. Je lui ai dit, si tu es là, où tu en es actuellement avec Jésus, dans ta marche avec lui, c'est que d'autres ont fait ce travail de te transmettre, de t'encourager, de te corriger. Alors tu n'as pas le droit de ne pas te bouger. Tu es redevable envers tous ces chrétiens qui t'ont aidé à te faire grandir en Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas dire à Jésus, non, non, ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas faire partie de ces 70. Je veux rester bien au chaud dans mon canapé et pas bouger. Non. Jésus nous demande de nous mettre en mouvement et sans tarder. Vous êtes des disciples ou pas? Vous avez lu le début du verset 3. Allez-y. Vous sentez cette urgence, cette situation-là, cette urgence. Et finalement, la personne de cette église-là, elle me dit, mais je ne sais pas comment faire. Eh bien ça, c'est pas grave, parce que ça, c'est technique et ça se règle. Chez France Évangélisation, nous avons plein d'outils à te donner, plein de conseils, mais en réalité, on s'en fiche. Tu aimes Jésus? Eh bien alors tu le partages naturellement. Il n'y a pas de problème avec tes propres mots. Et moi, j'adore voir des jeunes qui se convertissent et qui témoignent de leur amour de Christ qu'ils ont découvert. Alors oui, des fois, c'est un peu faux sur certains points théologiques. Alors bon, ok, il faut être carré quand même sur le centre. Hein. Si vous dites que c'est Jésus, voilà. Si vous dites que c'est autre chose que Jésus, il y a problème. Mais Je préfère qu'il y ait des petites erreurs, mais qu'il y a toute cette fougue de ces jeunes qui témoignent que de personnes qui sont hautement théologiques, mais qui ne sont plus du tout contagieux. Alors comment faire ? On ne sait pas toujours comment agir. Et chez France Évangélisation, nous étudions l'évolution de la société. Et puis, il y a 20 ans encore en arrière, on prenait un évangéliste, on le plaçait dans un stade rempli de gens et on annonçait l'évangile. Mais ça, c'est terminé. Ça, notre société, elle ne veut plus ça. Et quand on invite, et on le voit, quand on invite des gens à des regroupements pour faire de la découverte de la foi, eh ben, on a très peu de gens qui viennent. De nos jours, c'est plus comme ça. Notre société évolue et nous avons besoin d'évoluer avec elle. Nous ne remplissons plus de stades, plus en tout cas dans nos pays du Nord. Du coup, changement de braquet, on n'a pas besoin de remplir des stades et faire des campagnes d'évangélisation. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous voyons dans le texte, ici, on prêche d'abord dans la maison où nous sommes. Et après, à l'extérieur, d'abord dans la maison. Alors, je ne parle pas la maison ici de l'église, ce n'est pas l'église. Il envoie les 70 dans des maisons et aller prêcher dans ces maisons, chez les gens. On mange avec ces personnes-là, on boit ensemble, on se réjouit ensemble et on apporte la bonne nouvelle. Vous remarquez le nombre de fois qui a marqué dans ce texte qu'il est important de manger et de boire avec les gens. J'ai beaucoup de gens non chrétiens que je suis et que je suis devenu ami avec eux. Alors c'est pas pour leur vendre l'évangile, c'est pas un truc marketing l'évangile, mais c'est simplement pour les aimer. Et à un moment donné, leur donner l'évangile. Tu sais, ta vie avec Jésus, ça serait mieux finalement. Et pour que vous compreniez ce que Jésus a fait dans ce texte, ce qu'il a demandé à ses disciples de faire, mais aussi avec plein d'autres textes dans la Bible, on le voit aussi, l'idée c'est qu'il reproduit par rapport à des amis qu'on a non chrétiens. Alors on va faire un peu de maths pour que vous puissiez comprendre. Ok, je sais, c'est dimanche, on ne va pas trop réfléchir, mais on va faire quand même un peu de maths. Alors imaginez maintenant qu'on a une personne dans l'église qui est ancrée dans le Seigneur, qui est un disciple, et qui va prendre un disciple sous son aile, donc un jeune qui débute dans la foi. Et pendant un an, ils se voient toutes les semaines une fois. Et ils font ce qu'on appelle du discipulat. Et cet ancien va lui apprendre à obéir à Christ. Il va lui apprendre à prier, à lire sa Bible jour après jour, à témoigner. Et au bout d'un an, ce jeune, dans la foi, lui-même va témoigner. Et lui-même va commencer un discipulat avec un autre jeune qu'il a sous son aile. Et donc notre ancien qui se retrouve seul, il va prendre quelqu'un d'autre. Ok, ça c'est la deuxième année. Alors maintenant, vous voyez, première année, on part avec deux personnes. Deuxième année, on est à quatre personnes. Troisième année, on est à combien, les matheux ? 16 ? Non, on est un peu trop. 8. Ensuite, 16, 32, 69, 64, 128, etc. D'accord. Alors maintenant, d'après vous, en combien d'années il faudrait, par cette méthode-là en quelque sorte, évangéliser toute la France ? Alors toute la France, c'est 68 millions. Alors on est 68 millions en France. Combien de temps, à votre avis, vous faut-il pour évangéliser toute la France quand on fait du 1 à 1 en discipulat comme ça ? Allez, dites-moi un peu, ne sortez pas vos calculettes de bande de tricheurs. 30 ? Non, trop. Trop, pas assez. Un peu plus que 20 ans, presque 25, il nous faut quasiment 26 ans pour évangéliser 68 millions de personnes et 33 ans pour la terre entière. Ok, là vous me prenez pour un dingue. Hein. Il est complètement cramé du cerveau le bonhomme. Hein. Il veut faire ça en 26 ans. Mais en réalité, si nous regardons en Chine, en moins de 10 ans, il y a 1,7 million de baptêmes. Il y a eu 159 000 implantations d'églises. Ça, c'est deux fois plus rapide que le schéma que je vous ai montré. Deux fois plus rapide. Ok, ce n'est pas tout à fait le même contexte que nous, Européens, mais quand même. Ce que moi je vois, c'est que les Chinois, ils ont répondu à l'appel de Jésus. Ils ont répondu à cet appel des 70 à partir et aller parler, aller annoncer l'évangile. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et moi, je suis un peu brusque avec vous ce matin, mais je visite des églises de temps à autre et j'en ai marre de voir les chrétiens qui ne se bougent pas, des chrétiens qui sont endormis, des chrétiens qui sont assis sur leur chaise le dimanche et qui finalement ne bougent pas. Alors je ne dis pas que vous êtes endormis à Bouxwiller, mais je connais l'état de nos églises. Et il est temps que nos églises se réveillent. Il est temps que nos églises soient moins grignotées par les valeurs du monde et que nous puissions aller témoigner. Si nous prenons le verset 2 de Luc 10, le mot grec pour le terme pour envoyer, c'est le mot grec, c'est ekbalo. Et ekbalo, on peut aussi le traduire par jeter. Alors, je vous relis le verset 2 dans la version Chouraki, vous allez voir, c'est vraiment sympa. La moisson est abondante, mais rares les ouvriers. Ainsi, implorez la donne de la moisson, qu'il jette dehors les ouvriers pour sa moisson. Je suis venu ce matin pour vous jeter dehors, pour qu'ensemble nous puissions annoncer que le royaume de Dieu s'est approché de nos compatriotes, là, juste devant, à Bouxwiller, au centre, qu'il s'est approché de nous, de nos familles, là où vous vivez, jour après jour, de nos voisins. J'ai encore mon voisin qui me dit « apéro après ?» Ouais, pas de problème, viens, on fait apéro. Et voilà comment on annonce aussi Christ, de nos collègues de travail. J'ai un copain à moi, évangéliste, sa mission c'est de travailler pour aider les chrétiens à témoigner dans le milieu du travail. Parce que combien de chrétiens d'entre nous, on met le bouton « chrétien » quand on arrive à l'église, et dès qu'on sort de l'église, on enlève le bouton, on le met sur « off », et on rentre dans le milieu du travail et c'est terminé. On ne parle plus de Christ. Et combien c'est dommage. Vous avez des amis, allez prendre un verre avec eux. Écoutez-les. Soyez remplis d'amour pour eux. Et au bout de quelques temps, annoncez Jésus. J'ai l'habitude de dire que mon métier d'évangéliste, et mon fiston il l'a compris aussi, consiste à prendre des cafés ou des bières à longueur de semaine. Bon, alors, ok, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça quand même. On n'est pas loin, hein. Vous comprenez ? Prendre le temps avec les personnes, aller dans les associations, aller dans les milieux politiques, aller avec nos voisins ou nos amis, simplement des connaissances et aimer-les. Il y a 3 ans en arrière, un jour, un jeune papa de l'école maternelle de Jeanne me téléphone. Alors on se connaissait de vue, on s'était dit bonjour de temps à autre, mais sans plus. Et puis il me téléphone, et là il me balance une bombe au téléphone. Et il m'annonce son divorce. Il m'annonce la garde des enfants. Il m'annonce le tribunal. Je dis, waouh, mais ça tu peux pas me le dire au téléphone. Viens, on se prend un verre et faut que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que vous en êtes ? Comment vous en êtes arrivé là ? et comment pleurer ensemble dans des situations comme ça. Comment l'encourager et l'aider à grandir. Et tout doucement lui dire à un moment donné, tu sais moi, cette vision je ne l'ai pas. J'ai une autre vision avec Christ. Et si ça pouvait devenir aussi ta vision, ce serait cool. Alors c'est un homme qui n'a pas encore accepté Christ, mais on continue à se voir, à se fréquenter. Et je l'aime, et j'ai envie de me réjouir avec lui plus tard, quand on sera auprès de Dieu. J'ai envie de me réjouir avec lui, et je n'ai pas envie de le perdre. Et le problème, c'est que nous, chrétiens, eh ben, on est trop souvent entre nous, ensemble. Alors c'est bien, hein, on se réjouit, on grandit ensemble, et c'est important, mais on est quand même des fois trop entre nous. Alors d'après les statistiques, combien on a d'amis d'après vous ? Ah tiens, ça m'intéresse de savoir, combien d'amis avez-vous ? Ouais Bruno ? 5. Alors statistiquement, on en a un peu plus, mais oui, on n'a pas beaucoup d'amis. Des vrais amis, ouais, ça c'est vrai. On n'en a pas beaucoup des vrais amis. Alors faisons des amis, prenons un peu plus large le cercle. Ne prenons pas les réseaux sociaux parce que sinon vous en avez 5000. Alors, statistiquement, on en a 25. Ça, c'est statistique, d'accord ? Alors, le problème, c'est qu'une personne qui se convertit, qui est toute jeune dans sa foi, la personne, grosso modo, elle perd à peu près 5 amis non chrétiens par an pour les remplacer par des amis chrétiens. Alors, en combien de temps cette personne n'a plus du tout d'amis non chrétiens ? 5 ans. Alors, c'est pas tout à fait 5 ans parce que la courbe, elle diminue un peu vers la fin. On dit que généralement, quelqu'un qui se convertit n'a plus d'amis non chrétiens au bout de 6 à 8 ans. Je vous laisse réfléchir. Vous avez encore des amis non chrétiens ? Comment on fait pour annoncer l'évangile que à des chrétiens qui connaissent l'évangile ? Ça sert à rien, on est d'accord. On est là pour encourager nos amis dans l'Église, mais on est là aussi pour parler à des amis non chrétiens. Et comment voulez-vous parler de Jésus à un monde si nous restons tout le temps entre nous ? Et nos cultes, par exemple, sont-ils adaptés ? Alors on réfléchit hein, beaucoup avec le conseil à comment faire évoluer nos cultes, comment aider les non chrétiens à venir. Et nos groupes de maison sont-ils ouverts à des non chrétiens ? Et toutes nos activités, est-ce qu'on peut emmener des non-chrétiens avec nous ? Et l'évangile, ce n'est pas le domaine de spécialistes. Alors ça, je le vois des fois quand je vais dans des églises, les gens presque ils te disent « Ouh, c'est bon, on a un évangéliste qui est là, on va avoir plein d'évangélisation. » Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vous qui allez faire. Et nous, et c'est un peu cette idée de que chacun témoigne, annoncer le royaume de Dieu qui s'est approché de nous. Si nous avons soif de Jésus, alors nous aurons également soif de le transmettre. Et nous avons quelques règles que Jésus nous donne, et dans ce texte qui est assez intéressant, on le voit, hein, il nous donne quelques règles, et c'est aussi applicable à notre époque. Et dans notre texte, on ne s'embarrasse pas hein, à saluer des gens, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer une semaine sur des formalités de politesse, et ce qui était un peu la coutume dans le temps, mais nous aussi, ne passons pas avec nos voisins ou nos amis pendant 5 ans, à rester avec eux sans leur parler de Jésus. Alors bien entendu, on n'est pas obligé de leur parler de Jésus dès notre première rencontre avec eux. On va les faire fuir là. Mais ne passons pas 5 ans comme ça sans parler de Christ. Il nous dit également de ne pas passer de maison en maison. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder ailleurs si c'est meilleur. Ma femme et moi, nous avons annoncé l'évangile pendant plus de 20 ans dans l'église protestante luthérienne. 20 ans, ouh, c'était dur, c'était tendu à un moment donné, et dans notre foi c'était compliqué, et on n'avait pas beaucoup d'amis qui nous tapaient dans le dos et qui nous encourageaient à dire « continue avec le Seigneur » comme ça. Mais on a quand même voulu tenir pendant ces 20 ans parce que c'est important. Qui le fait si personne n'est là-bas ? Finalement on a quitté au bout de 20 ans, et l'idée c'était pas de dire « Bon Seigneur, je vais aller dans une église qui me plaît bien. Ouh, la sono est bonne, les chants de louange sont bons, il y a des miracles, et ça me plaît. Non, quand nous on est partis avec Laetitia, c'était pour dire, ok Seigneur, où est-ce que tu nous veux? Où est-ce qu'on doit travailler? Quelle église a besoin de nous? Et modestement, on apportera notre contribution. Ne partez pas de maison en maison. Alors oui, c'est vrai, on ne fait pas forcément n'importe quoi et n'importe comment quand on fait de l'évangélisation. Et Jésus, dans notre texte, nous montre encore d'autres méthodes, comme par exemple la prière, qui est la base, le fondement. Sans prière, pas d'évangélisation. Priez le maître de la moisson. Sans prière, on ne pourra rien faire. Et Jésus, dans notre texte, nous dit également de ne rien emporter. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales. Alors bon, ok, ça c'est dans notre texte actuel, mais si on va un peu plus loin dans l'évangile de Luc, il nous dit, cette fois-ci, emmenez avec vous. Cette fois-ci, prenez des choses. Et là, Christ n'est plus avec eux à ce moment-là, il est en train de partir à la Pentecôte, l'Esprit-Saint va arriver à l'Ascension, et puis l'Esprit-Saint arrive à la Pentecôte, et il nous demande, Jésus aussi, à un moment donné, de nous former. Il y a des choses qui existent, il y a des choses dans le 1-1, dans le discipulat qu'on peut transmettre, et que France Évangélisation fait, et c'est pour ça, formez-vous aussi à pouvoir le transmettre avec d'autres. Alors je vous donne un exemple encore. Un jour j'étais à Saverne et j'attendais un ami non chrétien et on devait discuter. Et on discute autour de quoi ? D'un verre, vous avez compris. Donc voilà, j'étais à une terrasse, je l'attendais qu'il arrive. Et au même moment, on a un groupe de chrétiens, alors ça je l'ai su par la suite, hein, mais on a un groupe de 3-4 personnes qui arrivent avec un énorme haut-parleur, une guitare, un micro, ils commencent à faire quelques chants et ils crient dans le micro « Convertissez-vous, Jésus vous aime !» Et là je me suis dit « Tiens, très intéressant !» Et en regardant un peu la réaction des gens, c'était dur, parce qu'on venait en frontal les percuter alors qu'eux ils étaient plutôt cool, ils étaient en train de prendre un verre sur une terrasse au soleil, ils n'avaient pas envie d'être dérangés comme ça. Deux méthodes d'évangélisation, un peu brutale, et une autre méthode dans du 1-1. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux prier pour toi? Vous voyez? Et c'est, je ne dis pas que c'est pas bien et qu'il faut pas le faire, qu'il faut pas prendre des micros parce que et aller dans la rue, parce que Dieu fait des choses de dingue avec des méthodes de dingue. Mais néanmoins, ce n'est pas ce qu'on préconise, parce que notre société actuelle n'a pas envie d'être dérangée comme ça. Au contraire, il faut y aller tranquillement et aimer les gens. Alors, je vous ai dit au début de mon message que nous devons regarder aussi nos péchés qui s'accrochent à nous, pour pouvoir aussi nous en débarrasser. Et Jésus prend aussi cette dépendance que j'ai des fois. Et c'est important quand on part comme ça en mission de pouvoir dire à un moment donné, ben Jésus, ouais, prends ce que j'ai, prends ma dépendance à l'alcool, à la pornographie, aux écrans ou d'autres. Et les 70 n'étaient pas exempts de péché, hein, mais le fait d'être partis leur a permis, avec Jésus, de grandir. Et si tu grandis, tu témoignes. Mais si tu témoignes, tu grandis. Mais si tu grandis, tu témoignes. Mais si tu témoignes, tu grandis. Vous comprenez? On ne fait pas l'un ou l'autre. On les fait en même temps. Quand on grandit, on témoigne. Et regardez ce que le texte nous dit. Les 70 revinrent tout joyeux. Ils ont grandi tout en témoignant. Si vous voulez grandir dans votre foi, avec Christ, c'est en témoignant. Vous ne pouvez pas faire l'impasse du témoignage. Mais finalement, quand on voit les 70, ils reviennent tout joyeux, mais ils n'ont pas tout compris. Waouh, Seigneur Jésus, même les démons nous ont soumis en ton nom. Alors oui, hein, on aime les choses des fois qui sont spectaculaires et Jésus est obligé de leur montrer à nouveau l'essentiel, de les recentrer. Ce n'est pas les démons ou les gens qui guérissent comme ça qui sont importants. Non, l'essentiel, c'est que tu es dans mon royaume. L'essentiel, c'est que tu es annoncé le royaume. Vous voyez dans le texte, hein, même les gens qui ne veulent pas entendre parler, eh ben, on secoue la poussière en disant quand même que le royaume est venu. L'essentiel, c'est que le royaume est là. Si tu m'acceptes dans ton cœur et que tu me fais une place et que tu me partages. Alors, là, nous pouvons voir des choses de dingue qui vont se produire. Et moi, j'ai vraiment envie de voir une église aussi qui se bouge comme ça dans le témoignage. Et j'ai envie, et j'aimerais vraiment travailler là-dessus, fin de l'année, un peu sur tout ce qui est discipulat et comment est-ce qu'on peut transmettre facilement, sans que vous ayez peur de le transmettre. Mais combien c'est important. Parce que le problème, c'est que je connais trop de gens, alors pas forcément dans notre église, mais aussi dans d'autres églises, qui débutent dans la foi. Et comment on fait pour leur donner? Et je sais que Satan rôde, et je sais que ça qui tourne, et qu'à la première occasion, il va les faire chuter, et que ces personnes vont quitter la foi. Et comment on fait? Eh bien, on essaye de mettre une personne à côté de lui, et lui dire, viens, je t'encourage à essayer de tenir et à grandir. Et le problème, c'est que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Et priez donc le maître de la moisson de jeter les ouvriers dans la moisson, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Amen. Et je vais encore prier. Seigneur Jésus, tu vois combien c'est, ouais, combien je me réjouis à chaque fois de pouvoir voir des amis qui ne te connaissent pas. Je me réjouis de pouvoir connaître leur parcours, leur vie, et en même temps ça m'attriste tellement de les voir cheminer sans toi. Et combien j'ai envie de donner ta parole et de leur donner vraiment cette lumière et cette vie. Et permet qu'à chacun d'entre nous ici à Bouxwiller, nous puissions avoir cette envie de discuter avec nos voisins, avec nos collègues de travail, avec nos amis, et combien tu puisses donner cet esprit aussi à ce qu'ils aient tellement envie de te partager, et qu'en face, les amis, nos voisins, nos collègues de travail puissent être réceptifs, parce que je sais que c'est une société qui est difficile et qui n'a pas toujours envie d'être dérangée, mais alors que tu puisses aussi travailler le cœur, ouais, de nos amis. Amen.